Merci, Claude. Voilà, bonjour, chers amis. C'est vrai que c'est un réel plaisir pour nous de vivre ce culte avec vous. Et en particulier, de plonger dans ce rappel ou dans cette évocation du travail de Catherine Murtada. Et c'est en fait sur ce thème-là que j'ai eu à cœur de rebondir dans ma prédication ce matin, mais vous allez voir que c'est d'une manière peut-être un peu originale. Donc ce travail de Catherine Murtada me touche, nous touche tout particulièrement parce que nous avons eu le privilège de la visiter il y a 5 ans. Et Dieu voulant, nous y serons de nouveau dans 2 mois pour visiter ce centre, regarder son environnement et être touché par ce travail tout à fait remarquable qu'elle fait là-bas. Mais ce matin, ce n'est pas du travail lui-même dont j'aimerais parler, mais c'est de ses motivations. Qu'est-ce qui a bien pu motiver Catherine? Alors évidemment, il n'y a qu'elle seule qui pourrait répondre à cette question. Marianne Monod a esquissé une réponse en disant que c'était Matthieu 24, Matthieu 25. Tout ce que vous avez fait à ces petits, eh bien c'est à moi que vous les faites, que vous les avez faits. Enfin, c'est la fresque du jugement dernier qui montre l'importance du service de l'autre. Ce matin, j'aimerais vous donner une autre clé, une clé qui est assez originale, que l'on n'utilise pas souvent. Et cette clé, je la trouve dans l'Ancien Testament. C'est un épisode de la vie de Jacob. Alors, avant d'arriver à l'événement dont j'aimerais vous parler, je crois que ça vaut la peine d'esquisser un peu une fresque de cette vie de Jacob. Donc, en quelques lignes, parce que le temps passe, bien sûr, on se souvient que Jacob, son nom veut le dire, c'est un trompeur. Ou dit autrement, c'est un fer-nard, un habile stratège, un homme qui a une ambition quelque part démesurée pour le Seigneur, apparemment, mais en tout cas pour lui-même, ça c'est certain, une ambition démesurée de se faire une place au soleil. D'ailleurs, ce n'était pas vraiment de sa faute, puisqu'il savait de qui tenir, en fait, la personne qui l'a éduqué dans cette manière de faire, ben vous savez bien que c'est sa mère. Il s'est avéré, et malheureusement ça se trouve aussi dans les meilleures de nos bonnes familles, il s'est avéré que Madame mère de Jacob, c'est-à-dire Rebecca, était une femme qui avait des préférences, était une femme qui voulait valoriser Jacob plutôt que son aîné Ésaü. Et voilà, il arrive dans les familles, en effet, que certains frères, certaines sœurs sont les préférés, parfois on dit les chouchous, des parents, aux dépens des autres. Parfois c'est réel, parfois c'est imaginaire, mais je crois qu'il n'y a pas de famille qui n'ait été marquée d'une certaine manière par ces types de relations quelque peu déformées. Alors voilà, donc maman Jacob lui dit, ben voilà, tu sais, je t'ai préparé toute une stratégie. Comme ça, tu auras la bénédiction, ce sera une magnifique affaire pour toi, ça me fait plaisir, je me retrouverai en toi et quelque part, eh bien, voilà, tout ira bien et puis Ésaü, tant pis pour lui. Finalement, ça se passe relativement mal, enfin, ça se passe bien pour Jacob, oui, il a la bénédiction, mais alors, et le père, réalisant qu'il est trompé, en retire une profonde colère contre son fils. Et le frère, alors une colère démesurée, de telle sorte que Jacob doit quitter le domicile familial, parental, pour émigrer bien loin de chez lui, à plus de 1 000 1 500 km, à Haran, où se trouvait son grand-père, Abraham. En fait, il va chez son oncle Laban. Bon, je ne vous refais pas toute l'histoire, vous lisez vos bibles, vous regardez les cartes géographiques, vous voyez Haran, vous voyez un peu tous ces pays-là. Et puis, voilà, bien Jacob retourne chez son oncle Laban. Vous savez, c'est un petit peu l'image, bon, l'image vaut ce qu'elle vaut, mais c'est un peu l'idée d'aller visiter l'oncle d'Amérique. Parce que c'est vrai que Laban avait réussi. Jacob a la bénédiction, mais il est chassé de sa famille. C'est un réfugié, un homme errant, un homme banni, en fait, de son lieu de vie. Et puis il n'a rien, rigoureusement rien, il a que les habits, sa peau et quelques habits sur lui, rien sauf sauf la bénédiction de Dieu. Dieu le bénit. Malgré toute l'histoire un peu curieuse que j'ai décrite au début, Dieu le bénit. Ainsi va de la liberté de notre Seigneur. Les voies du Seigneur sont souvent insondables, mais Dieu le bénit parce que Dieu a choisi Jacob pour faire traverser au travers de lui tout ce plan de salut qui va se développer pendant des millénaires jusqu'à Jésus-Christ. Donc, Jacob arrive chez Laban, et puis cet oncle qui était bien installé dans la vie est tout content de ce neveu qui va lui apporter de l'aide, qui va être le secondé dans son travail. Il en est tellement content qu'il lui offre ses deux filles en mariage, Rachel et Léa. Mais là, vous savez qu'il y a un petit jeu, hein. Jacob préférait Rachel. Laban, après 7 ans, dit « Mais je te l'offre en mariage. » Laban profite de saouler Jacob. Et le lendemain matin, Jacob découvre que c'est avec Léa qu'il a passé sa nuit de noces, alors qu'il préférait Rachel. Mais c'est des histoires truculentes, j'entends. Si vous aimez les histoires un peu fascinantes, ne lisez pas les journaux quotidiens de nos kiosques, lisez la Bible. Et dans la Bible, il y a des histoires truculentes qui correspondent tellement bien à nos personnalités et avec lesquelles Dieu tricote pour notre bien et pour manifester ça, qu'est-ce qu'on a dit ? Sa grandeur et sa gloire. C'est assez étonnant, hein ? Non, mais ça vaut n'importe Paris Match ou n'importe quoi. Lisez la Bible. Bref, donc finalement, la nuit de noces avec Léa alors qu'il l'aurait aimé avec Rachel. Puis Laban dit, bon, mais écoute, n'en fais pas un fromage, c'est pas une histoire. Tu finis la semaine avec l'une et puis tu auras l'autre pour la semaine suivante. Bref, non, mais c'est dans la Bible, franchement. Ensuite, alors, pardon ? Ah non, pas du tout, mais j'entends, il faut lire toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Donc là, je suis dans la Genèse. Hein. Maintenant, alors après, on parlera des chapitres suivants, puis on finira dans l'Apocalypse. Mais là, je suis dans la Genèse. Je suis parfaitement d'accord. Bref, voilà ce qui se passe. Et alors, notre fin renard voit sa situation économique prospérer. Sur le plan familial, il est comblé. Ses épouses, bon, il y a tout un jeu de stérilité, de fécondité. Ses épouses lui donnent un certain nombre d'enfants, ça ne suffit pas, il y a encore les servantes qui s'alignent, et puis finalement Jacob arrive à avoir 12 enfants. Bref, 12 garçons, plus des filles. Mais là, on est encore en système patriarcal, donc on met en avance les hommes. Mais il faut que j'aille de l'avant. Après 20 ans, Jacob a le mal du pays, et il veut retourner dans son pays d'origine. Là encore, il trompe largement tout son monde, mais n'empêche, il part. Il part avec cette grande famille, il part avec ses brebis, ses troupeaux immensément riches. Il se met en route pour rejoindre le pays, son pays d'origine, et là encore, Dieu le bénit. Et ce retour est tout à fait étonnant. Il est parti seul, il rentre, mais avec des richesses abondantes. Apparemment, tout devrait bien se passer pour lui. Oui, à propos, ça s'est passé quand cette histoire ? Ça s'est passé quand cette histoire ? Vous pouvez me dire ? À peu près. Pardon ? 2000 ans avant Jésus-Christ ? 5500 ? Depuis maintenant. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi pas, pas du tout. C'est tout faux. Ça s'est pas passé quand cette histoire ? Ça s'est passé aujourd'hui. Ne lisez pas la Bible comme si c'était un livre d'histoire. Lisez la Bible parce qu'elle nous rapporte des histoires qui nous concernent, nous. Donc ce que je suis en train de vous raconter, ça se passe aujourd'hui, dans nos propres vies. Ça, souvenez-vous, j'espère que dans chacune des prédications que je vous apporterai, je vous donnerai ce petit gag. Ça s'est passé quand ? Ça se passe aujourd'hui. Ce n'est pas écrit pour remplir nos livres d'histoire et puis nous cultiver et enrichir notre savoir. C'était écrit pour travailler sur notre rapport avec Dieu et sur notre dynamique existentielle personnelle. Donc voilà, Jacob revient. Tout semble bien aller pour lui. Comme pour nous, parfois, tout semble bien aller. là, sauf qu'il y a un terrible grain de sable qui se glisse dans les rouages. Que dis-je? C'est pas un grain de sable, c'est une montagne qui se glisse dans les rouages. Il faut traverser une rivière frontière. Il faut traverser, il y a un passage, une transition, une rivière frontière. Et Jacob apprend que de l'autre côté de la rivière, qui se trouve de l'autre côté de la rivière? Frère. Oh, mais gentil, son frère était heureux. Mais cher Jacob, enfin tu rentres, ça me fait plaisir, ça fait 20 ans que j'ai l'ennui de toi. Je suis tellement content de t'accueillir. Écoute, je viens avec des présents. Viens, juste. Et non, Ésaü vient avec 400 hommes de guerre, avec des boucliers, des matraques, avec des épées, tout ce qu'il faut pour tailler en pièces. Ésaü vient avec 400 hommes, tout ce qu'il faut pour tailler en pièces son frère Jacob. Et alors, Jacob a peur. Et la peur s'installe en lui. Jacob a peur et la peur s'installe en lui parce qu'il se rend bien compte que le choc est inévitable. Ça s'est passé donc juste sur un petit fleuve frontière. Ce fleuve, vous le voyez dans vos cartes géographie, il descend de la Jordanie actuelle pour se jeter dans le Jourdain. Il s'appelle le Yabok. Et nous allons lire maintenant le texte de l'événement que Jacob va vivre précisément dans cette nuit avant de rencontrer son frère.
Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon.
Ça s'est passé quand, cette histoire? Aujourd'hui. Donc, Jacob est là, de l'autre côté de la rivière. Elle est mouvante, elle est bouleversante, cette histoire. Il faudrait prendre beaucoup plus de temps que je n'en ai pour la méditer. Et Jacob, de nouveau, un trompeur, un stratège, qui nous ressemble, qui me ressemble en tout cas, il met en place une stratégie en trois points. Premier point, il se prépare à faire la guerre, parce qu'il sépare ses hommes, ses serviteurs, il les équipe aussi de d'outils de guerre, et il les sépare en deux groupes, de manière à pouvoir, d'une manière stratégique, essayer de gagner d'une certaine manière ou de se défendre de la manière la plus habile. Deuxième stratégie, Jacob cherche à apaiser son frère par des cadeaux. C'est mis dans le chapitre précédent, au début de ce chapitre, vous pouvez le lire par exemple dans Genèse 32, versets 14 à 22. Alors il lui apporte des quantités de cadeaux. Troisième stratégie, Jacob prie. Jacob prie, puis dit simplement, ben, « Seigneur, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne, qu'il me frappe avec la mère et les enfants. » Aucune de ces stratégies n'aboutira. Aucune. Les cadeaux, Ésaü n'en a rien à faire, parce qu'Ésaü est tout aussi riche que Jacob. Donc finalement, riche pour riche, il dit « tes cadeaux ne m'intéressent pas ». La stratégie guerrière n'aboutira pas parce qu'elle n'a pas pu être mise en œuvre. La prière n'aboutira pas non plus. Ou plutôt, je devrais dire, elle aboutira différemment. Mais en tout cas, Dieu ne va pas comme ça, d'un coup de baguette magique, faire qu'Ésaü soit terrifié et soit terrassé et que tout à coup Ésaü prenne la fuite, comme on le trouve parfois dans d'autres versets. Donc cette prière n'est pas exaucée. La nuit tombe. Le trompeur s'est séparé de tous ses biens, ses épouses, ses serviteurs soldats. Il est seul. L'heure de la vérité a sonné. Seul au bord de la rivière. Une rivière qui est un peu un temps charnière. N'avons-nous pas eu aussi dans nos vies des temps charnières? Jacob est seul et c'est alors que face à lui-même et à sa conscience, il est seul avec tout ce qu'il porte de lourd et de culpabilisant. Jacob sait très bien que toute sa vie a été tissée par de la tromperie. Jacob connaît ses passions, ses doutes, ses peurs, ses culpabilités. Et là, dans cette solitude, Jacob va engager un combat avec lui-même. Un corps à corps avec ses zones d'ombre, avec ses passions. J'ai relu un passage du livre de Sœur Emmanuelle, Confession d'une religieuse. Et j'ai retrouvé une narration que Sœur Emmanuelle fait de ce qu'elle appelle une nuit de feu, qui ressemble tellement à cette histoire de Jacob. En fait, Sœur Emmanuelle, à un moment donné, elle qui s'était consacrée au sacerdoce, elle est tombée amoureuse d'un homme. Enfin, elle sentait des sentiments amoureux pour l'un de ses professeurs d'ailleurs. Et pendant une nuit, c'était un terrible combat pour elle. Et elle décrit ce combat d'une manière un peu illustrative, comme on peut imaginer le combat de Jacob. « Un désir flotte en moi. Passer la nuit, passer la vie avec lui. » Mais une réponse, « Non, je suis religieuse. » Mais dans un songe, je l'entends s'approcher, se pencher de plus en plus sur moi. « Non, non, arrière !» Je me débats en vain. Je respire maintenant son effluve qui verse le feu sur mon corps. Ma poitrine se soulève, ma chair en sueur frémit. « Recule, va-t'en !» Oui, étreins-moi, je résiste, je lâche. Je trouve assez admirable cette forme d'exprimer le combat intense que Sœur Emmanuelle a ressenti face au sentiment intérieur qui l'a marqué lors aussi d'une nuit et d'une nuit de passage. Le feu qui nous brûle, mais qui purifie, le feu qui ronge, mais qui éprouve, qui solidifie. Combien de fois nous vivons, nous aussi, des nuits de ce genre? Des nuits liées à nos problèmes de santé, à nos crises professionnelles, à nos crises conjugales, à nos deuils, à tout ce qui vient fracturer notre existence. Donc Jacob visite tout son passé. Il est seul, il est face à lui-même. Il se souvient de cette bénédiction usurpée. Il se souvient de ce père qui l'a trompé. C'est pas simple pour un homme de s'imaginer avoir trompé son père. Il se souvient de sa mère intrigante et manipulatrice, de ce frère en colère, de la fratrie déchirée, de la famille divisée, des années d'errance, du labeur chez Laban. Culpabilité, peur, manipulation. C'est moi? Oui, c'est moi. C'est réellement moi dans cette nuit obscure. C'est moi. Et Jacob, face à lui-même, dans cette nuit obscure, finalement, il en oublie tout, bien sûr. Les épouses ne sont plus là, les enfants ne sont plus là, les troupeaux ont passé le Jabbok. Épouses, enfants, troupeaux, tout cela, ce n'est finalement qu'un décor qui ne peut plus vraiment cacher la réalité de ce que je suis. Je suis un trompeur. Et dans ce combat avec lui-même, alors, un mystérieux personnage va rejoindre Jacob pour le combattre. Un ennemi, Jacob ? Non, surtout pas un ennemi. Parce que vous savez que tous les combats que nous entreprenons ne sont pas toujours avec des ennemis. Il y a de bons combats avec des amis. Ces ennemis amis, eh bien, cet ennemi ami, il va aider Jacob à traverser la nuit obscure. Cet amical ennemi va se révéler à Jacob. Et c'est exactement l'expérience que l'apôtre Paul a fait. Jacob sait très bien que par lui-même, par ses propres forces, il ne pourra plus s'en sortir. Il a de l'âge, il a quand même de l'expérience. Et il sait que par ses propres forces, il ne pourra pas s'en sortir. Souvenez-vous des phrases de l'apôtre Paul, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Je ne fais pas le bien que j'aimerais et je fais le mal que je n'aimerais pas faire. » Romains 7. Et là, Jacob vit exactement la même expérience. Il ne pourra pas s'en sortir, à moins que quelque chose se passe, à moins que quelqu'un ne le change de l'intérieur, que quelqu'un ne vienne le toucher, le retourner, le transformer, lui permettre de construire une nouvelle relation. Et ça, Jacob n'osait à peine l'espérer. Jusqu'à ce que cet ennemi-là, avec lequel il a combattu, vienne le lui proposer lui-même. Au cours de la nuit, au cours du combat, l'adversaire mystérieux lui adresse la parole. « Comment tu t'appelles ?» Comme s'il ne savait pas. J'aime ces questions de Dieu. On en trouve tout plein dans les Écritures avec Adam, avec, j'en citais une dimanche dernier, mais tout plein de ces questions. « Mais où es-tu ? Que fais-tu là ?» Oui, avec Élie. « Que fais-tu là ?» Comme si Dieu ne savait pas. Des questions rhétoriques que Dieu nous adresse pour nous forcer à réfléchir sur nous-mêmes, pour nous forcer à lire à l'intérieur de nous-mêmes qui nous sommes réellement, et découvrir par là même notre propre identité. Quel est ton nom ? Est-ce que Jacob va répondre pour une fois la vérité ? Ou bien est-ce qu'une fois de plus va-t-il esquiver cette question ? Eh bien non, Jacob répond, je suis le trompeur. Je m'appelle Jacob. Cette fois-ci, il ne triche plus. Et alors, après cet aveu, vient la bonne nouvelle. Ton nom ne sera plus Jacob le trompeur. Ton nom sera désormais Israël, car tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec les hommes, et tu étais vainqueur. Son nom est transformé. Et vous savez bien qu'en hébreu, et ça c'est très important, le nom c'est l'identité de la personne. Ce n'est pas simplement quelques syllabes prononcées en rapport avec nos personnes, c'est ce que nous sommes réellement, c'est notre identité, tout à coup. Jacob voit son identité transformée. Donc il y a de l'espoir pour lui. Donc il y a la promesse d'un changement, d'une nouvelle vie, d'une vie transformée, d'une vie recréée, la recréation d'un être nouveau, parce que Dieu a lutté avec lui et parce que Dieu l'a transformé. Ce combat a épuisé Jacob. Ce combat l'a même fracturé. Son être profond en a été touché de telle sorte qu'il en ressort boiteux. Il devient fragile. À l'image de l'enfant qui sommeille en lui. Nous avons tous un enfant qui sommeille en nous, qui témoigne de notre fragilité, mais qui témoigne aussi des blessures de l'existence qui l'ont marqué d'une manière toute particulière. Et fragile comme l'enfant qui a toujours besoin d'un père. Lui qui s'est émancipé avec violence de son père, de son frère et de sa famille, lui va enfin pouvoir visiter cette blessure. Il peut renouer avec ce père qui était devenu un ennemi. Il peut se réconcilier pour reconstruire au fond de lui l'image d'un père aimant, d'un père à aimer, et non pas l'image d'un père trahi à conquérir. Il peut exister en recevant cette fois-ci sa vie d'un autre. Jacob reçoit sa vie, sa nouvelle identité de la main même de Dieu. Le dialogue avec l'autre combattant lui apprend que celui qui est avec qui il a lutté, oui, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui va désormais changer sa vie. Alors, le matin vient. L'aurore vient. Jacob est un autre homme. un autre homme qui lui permet d'abandonner complètement les stratégies qu'il avait mises en place. Vous vous souvenez, ces trois stratégies? Une prière très utilitaire, « Seigneur, tu vas faire ce que je te demande, le miracle dont j'ai besoin pour satisfaire ma cause. » Et puis les stratégies d'acquisition de la mansuétude de son frère en lui donnant des cadeaux, etc. Jacob se lève. Elle vit qu'Ésaü arrivait et avec lui 400 hommes. Et alors Jacob lui-même passa devant eux. Cette fois-ci, c'est fini la stratégie de mettre les autres devant. Il a la force, le courage de passer devant. Il a la force, il a assez de force de boiter, d'être tellement frappé et impuissant à tel point qu'il boite, mais il sait que cette blessure est plus forte que la force qu'il croyait avoir avant d'être blessé. La blessure est plus forte que l'illusion de la force qu'il croyait pouvoir mettre en œuvre pour réussir ses projets. Et alors il rencontre Ésaü. Il court à sa rencontre, il l'embrasse, il s'étreigne et il pleure. Et c'est là que il y a un échange de paroles qui est tout à fait bouleversant entre eux. C'est depuis le verset 8 du chapitre 33. Ésaü dit, mais qu'as-tu à faire avec tout ce camp que j'ai croisé? Puis Jacob répond, mais je voulais trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü reprend, mais tu sais, j'ai amplement pour moi, mon frère, j'ai bien assez pour moi, mon frère, ce qui est à toi, garde-le. Et Jacob répond, non, je t'en prie. Si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, tu accepteras de ma main mon présent. En effet, puisque j'ai vu ta face comme on voit la face de Dieu et que tu m'as agréé. Et c'est cette parole que j'aimerais vous laisser parce qu'elle m'a bouleversé. Jacob dit à son frère Ésaü, j'ai vu ta face, j'ai vu ton regard comme on voit le regard de Dieu. Et là, il y a de quoi en être profondément impressionné. Profondément impressionné quand on imagine que quelques minutes auparavant, ils étaient encore, ou quelques heures auparavant, en tout cas, ils étaient des ennemis irréductibles, décidés d'en découdre l'un avec l'autre, ou même sans aller jusqu'à la position extrême d'être des ennemis. Ben oui, combien de fois il nous arrive de côtoyer des gens et finalement d'être très indifférent à leur égard, d'être peu attentif à ce qu'ils sont, ou d'être condescendant, ou même d'être jugeant, d'être critique. Combien de fois est-ce que nous sommes, par mécanisme de défense, par peur, à cause de notre histoire, enfin je ne refais pas tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, mais combien de fois est-ce que nous n'avons pas une attitude de rejet, de discrimination vis-à-vis de ceux qui nous entourent? J'ai vu ta face. Comme on regarde la face de Dieu. Et c'est la question qui nous est posée. Est-ce que nous pouvons dire cela? Eh bien oui, de nos voisins. Est-ce que nous pouvons dire cela de ceux qui ont été des obstacles dans notre vie? Est-ce que nous pouvons dire cela de ceux que nous considérons de peu de valeur? Ou de ceux qui, oui, que finalement nous n'apprécions guère? Et c'est, à mon avis, l'une des clés que je peux comprendre du travail de Catherine Murtada. Voir le regard de Dieu dans chacun de ses enfants. Voir que la face de ses enfants, de chacun de ses enfants, reflète la face de Dieu. Et alors, c'est une raison profonde pour se mettre en œuvre et pour aller rejoindre et vivre le travail qu'elle vit. Alors c'est ce que j'avais à cœur de vous laisser ce matin. Et finalement, mon résumé, ou la leçon de tout cela, c'est de rappeler que notre existence, finalement, nous ne la construisons pas. Notre identité n'est pas acquise comme ça par une forme d'absolu ou une forme d'héritage culturel, professionnel, ou tout ce que nous construisons par la force du poignet. Notre identité se réalise dans notre relation avec Dieu et avec les autres. Notre identité se réalise dans l'amour que nous recevons, dans le fait que nous nous laissons trouver par lui. Notre identité, c'est de nous recevoir, se recevoir de Dieu et s'accepter comme une créature aimée, guérie, pardonnée. Laisser notre cœur renaître à partir de cette tendresse originale. Laisser notre cœur renaître à partir de cette tendresse originale. Malgré nos deuils, malgré nos bouleversements, nous recevoir, revenir à notre origine, c'est en sorte laisser Dieu construire son image et sa présence en nous. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour cet extraordinaire événement qui pour moi est un événement fondateur de l'identité, j'allais dire de l'identité chrétienne, mais bien plus au-delà de l'identité juive ou l'identité humaine lorsqu'elle se construit avec toi. Et c'est cela que tu veux donner à ceux qui cheminent avec toi, c'est une rencontre profonde qui les fracture dans toute leur présomption pour leur faire découvrir que leur vraie nature, elle vient du nouveau don que tu leur fais. Alors nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que des combats comme ceux-là, c'est des combats qui font vivre. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, d'avoir accepté d'être descendu dans cette nuit du Jabbok pour vivre ce combat avec Jacob et lui faire découvrir que la fragilité, c'est la plus grande de ses forces, que la faiblesse, c'est la plus grande de ses réussites. Et que c'est dans cette faiblesse que tu manifestes pleinement ta gloire. Seigneur, c'est aussi ce que toi, tu as vécu. Tu as connu, toi aussi, une nuit du Jabbok. La nuit avant le Golgotha, tu as lutté avec ton Dieu. Et ton Dieu ne t'a pas épargné la croix, mais tu as pu monter vainqueur sur cette croix, de telle sorte que si tu en es mort physiquement, dans ton identité profonde, tu en es resté triomphant. Aussi nous pouvons t'adorer encore ce matin. Amen.